Bienvenue à cette nouvelle édition du 9 février des Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca, votre rendez-vous bimensuel pour une revue en profondeur, il faut le dire, des actualités nationales et internationales touchant à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers, aux questions autochtones et tout est canté. Marie-Ève au micro, toujours accompagnée de Mathieu et Simon. Bonjour à vous deux.
Bonsoir Marie-Ève.
Salut tout le monde.
Encore cette semaine, l'émission est préenregistrée pour cause de travaux dans les chics studios ucamiens de Choc. Alors au programme aujourd'hui, Mathieu, toi tu vas nous parler du conflit israélo-palestinien et aussi d'un sujet dont on parle pas souvent, les relations diplomatiques du Canada.
Oui, les drôles de relations internationales du Canada.
Simon, toi ce sera les actualités sur les enjeux migratoires Québec-Canada.
Ouais, beaucoup sur les organismes qui sont vraiment sous pression là, depuis une coupe. Toujours, mais on dirait pire que jamais. Là.
Effectivement, et tu nous amènes aussi au Royaume-Uni et en Irlande.
Oui, avec plusieurs brèves.
Aussi sous pression, je pense.
Je pense qu'on est dans une planète sous pression.
Pour ma part, je vais vous présenter quelques brèves sur l'Algérie, la Belgique et l'Espagne, sur un autre cas de profilage policier à Châteauguay cette fois-ci, et nos suggestions d'événements militants des prochaines semaines. Et après les quelques notes musicales qui suivent, je poursuis mon infâme revue de l'année 2022 en chiffres. Alors, comme je vous le disais il y a quelques secondes, je poursuis ma revue de 2022 en chiffres avec la France cette fois-ci qui a connu une hausse des régularisations d'un côté et une hausse des expulsions de l'autre. Ça s'annule pas tout à fait, mais a également connu un quasi-record des demandes d'asile. Donc, il y a plus de 137 000 premières demandes d'asile qui ont été enregistrées. Une hausse, là, je dis première demande, là. C'est important, vous allez voir pour la suite. Donc, une hausse de 31% par rapport à 2021. Et là, on se retrouve, en fait, près des niveaux qu'on avait connus en 2019, c'est-à-dire environ 138 500. Ça, c'est pour les premières demandes. Mais si on prend tous les types de demandes, c'est-à-dire réexamen, mineur, procédure Dublin, etc., ben là, on passe à un record pré-pandémie qui revient après au record pré-pandémie avec un peu plus de 156 000 demandes en 2022, qui est comparativement un peu plus de 152 000 en 2019.
Okay.
Les principaux pays d'origine sont l'Afghanistan, le Bangladesh, la Turquie, la Géorgie et la République démocratique du Congo. Mais il faut aussi ajouter à ça près de 66 000 Ukrainiens qui bénéficiaient fin 2022 de la protection temporaire en France, un chiffre qui prend même pas en compte les mineurs d'ailleurs. Et bon, du côté des expulsions, je vous en parlais, le ministère de l'Intérieur en a recensé près de 15 500, soit 15 % de plus qu'en 2021, mais quand même un tiers de moins qu'en 2019.
Okay.
Et enfin, les régularisations ont quant à elles augmenté 8 % avec 34 000 admissions exceptionnelles au séjour. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est principalement des régularisations de travailleurs salariés en situation irrégulière. Et je termine avec des chiffres qui concernent les étudiantes et étudiants étrangers en France qui sont au nombre de 400 000 dans les universités françaises en 2021-2022, dont plus d'un quart venait du continent africain. On retrouve effectivement là 6 pays africains dans le top 10 des nations les plus représentées sur les bancs des universités françaises. Le Maroc en tête avec plus de 40 000 étudiants et étudiantes dans l'enseignement supérieur l'année dernière. Vient ensuite l'Algérie avec 31 000 étudiantes et étudiants. Le Sénégal, lui, se classe 5e, suivi de la Tunisie. Et vient ensuite la Côte d'Ivoire en 8e place et le Cameroun qui ferme ce top 10. Mais les augmentations les plus importantes dans ce top 10-là proviennent de pays voisins de la France, soit l'Italie, qui est quatrième pays d'origine avec une augmentation de 16 %, l'Espagne, 7e position, augmentation de 25 % et le Liban, en 9e position avec une augmentation de 30 %. Et finalement, ben, en dehors du top 10, les inscriptions en provenance des Amériques ont augmenté de 15%. C'est l'Amérique du Nord qui connaît la plus forte hausse avec 43%. Les inscriptions en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes augmentent quant à elles de 14% et celles d'Amérique du Sud de 4%.
Incroyable,
hein? Je m'en viens jouer, je fais une Paul Hood de moi-même avec mes statistiques.
C'est des Français de Montréal qui retournent étudier en France, peut-être.
Mais quand même, c'est 152 000 demandes d'asile. Il y en a eu 100 000 au Canada.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, on voit que c'est plus difficile de rentrer en France, de rentrer sur le territoire et oui. faire une demande d'asile qu'avant. Là.
Exact, ouais, exactement. Alors, ben écoute, je me tourne vers toi, Mathieu, maintenant, qui nous parle du conflit israélo-palestinien.
Oui, une grosse mise à jour. On est vraiment en 2023 dans ce cas-ci, même si je vais revenir un petit peu sur 2022, mais c'est vraiment dans l'actualité très, très chaude des dernières semaines. Donc, plusieurs centaines de milliers d'Israéliens ont manifesté depuis quelques semaines à Tel Aviv et ailleurs dans le pays pour clamer leur refus de la politique de la coalition au pouvoir autour de Benjamin Netanyahou. Ils dénoncent en particulier la réforme de la justice présentée le 4 janvier qui comprend l'introduction d'une clause dérogatoire, ça nous dit quelque chose, hein, ça, permettant au Parlement d'annuler à la majorité simple n'importe quelle décision de la Cour suprême du pays.
Ah, à cela, ça... C'est merveilleux, ces outils, hein?
Oui, écoute, c'est pratique. À cela s'ajoute, dans les manifestants, les opposants à la colonisation israélienne, évidemment. Les différents mouvements de défense LGBTQ inquiètent la présence au gouvernement de ministres ouvertement homophobes. Simon en avait parlé un petit peu, là, dans notre émission spéciale de début d'année. Dans la foulée, ben, la Cour suprême d'Israël a invalidé la nomination par Netanyahou du numéro 2 du gouvernement. Arié Dery, reconnu coupable de fraude fiscale. À la fin décembre, les députés israéliens avaient adopté à la va-vite un texte baptisé « Loi Dery » par la presse, autorisant l'attribution d'un portefeuille ministériel à n'importe quelle personne jugée coupable d'un crime tant qu'il n'y a pas été condamné à la prison ferme.
C'est une bonne présomption d'innocence. Hein?
Oui, ben c'est une bonne, un bon message.
Quel cirque.
L'objectif de ce texte était de permettre à Dery, chef du parti ultra-orthodoxe séfarade Chass, deuxième formation de la coalition, de siéger au sein de l'exécutif. Mais finalement, Netanyahou, qui lui-même fait l'objet de poursuites pour corruption, a finalement limogé le ministre. Peu après, il y avait trop de pression, évidemment, ben oui. un peu partout. Ensuite, l'ambassadeur d'Israël au Canada a déclaré qu'il allait quitter son poste dans la foulée de celle de France, celle en France, qui a annoncé fin décembre qu'elle démissionnait pour protester contre la nouvelle administration. Donc, l'ambassadrice d'Israël en France aussi avait fait la même chose. Le 30 décembre dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution demandant un avis à la Cour internationale de justice sur la question de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Quelques jours plus tard, pour faire payer le prix à l'autorité palestinienne d'avoir poussé pour cette résolution, Israël a annoncé une série de sanctions. Le cabinet de sécurité a décidé d'octroyer à des familles de victimes d'attaques palestiniennes environ 139 millions de shekels ou 53 millions de dollars prélevés sur ce qu'Israël perçoit en taxes douanières pour le compte de l'autorité palestinienne. Mmh. Israël retiendra également d'autres fonds perçus pour l'autorité palestinienne à hauteur de ce que celle-ci a versé en 2022 aux prisonniers palestiniens et aux familles de militants tués. Le cabinet de sécurité a également décidé de geler des projets de construction palestiniens dans certains secteurs de la Cisjordanie. Une quarantaine de pays ont réclamé à la mise en vie la levée des sanctions adoptées par Israël contre l'autorité palestinienne, mais pas le Canada, qui n'avait pas voté non plus pour la résolution pour la Cour internationale de justice.
Il s'est abstenu?
Non, contre, l'un des deux cas. Ouais, carrément avec 5-6 pays obscurs comme les États-Unis, les îles Fidji, puis la Russie, bon, des pays comme ça. Je vous conseille d'ailleurs de lire l'article de l'Agence Média Palestine intitulé « Après des années d'inertie diplomatique, que peut offrir la Cour internationale de justice aux Palestiniens? » Bon article d'analyse.
Bonne question.
Bonne question. Au niveau des affrontements sur le terrain, on assiste à une brusque escalade après la mort fin janvier de 11 Palestiniens dans un raid de l'armée israélienne à Jenin. Aussi, Israël a saisi la maison familiale d'un Palestinien qui a tué 7 personnes près d'une synagogue à Jérusalem-Est dans le cadre de mesures annoncées par le gouvernement visant à révoquer certains droits des proches des assaillants, dont les droits à la sécurité sociale de leur famille. Mmh. Et ils vont démolir la maison, évidemment, après. La révocation des cartes...
Oui, ça, ils font toujours ça.
Ils font... c'est pas nouveau, tout à fait. La révocation des cartes d'identité israéliennes sont aussi à l'ordre du jour pour les familles des dits assaillants. Le cabinet de sécurité israélien a également décidé de faciliter l'obtention de permis de port d'armes pour la population israélienne. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a répété la nécessité de durcir les conditions des détenus palestiniens dits de sécurité. Je le cite, « Je suis déterminé à continuer d'agir pour supprimer les conditions dignes d'un camp de vacances dont bénéficient les terroristes meurtriers palestiniens. » Il pourra en parler à Karim Younis, qui est le prisonnier palestinien ayant subi la plus longue durée de détention dans une prison israélienne. Il avait été arrêté en 1983 pour avoir prétendument commis une attaque contre un soldat israélien sur le plateau du Golan, occupé, et condamné à la prison à vie, puis à 40 ans. Il a été libéré de prison le 5 janvier dernier. Le premier geste qu'a fait Karim Younis après sa libération fut d'aller se recueillir sur la tombe de sa mère décédée en mai dernier, quelques mois avant sa libération. Elle lui a rendu visite 700 fois lors de son interminable détention dans les geôles israéliennes, dit camp de vacances. Depuis le début de l'année, le
conseil. Qu'est-ce que c'est dit camp de vacances?
Ben, le ministre a dit que c'est des conditions dignes de camp de vacances.
Ah, qu'elle est du plus. Oui, évidemment.
Qui envoie ses enfants, là.
Ben oui, c'est ses ados. depuis le début de l'année, le conflit a coûté la vie à 36 Palestiniens, 6 Israéliens et une Ukrainienne dans l'histoire de la synagogue. C'est la suite de l'année 2022. C'est suite à l'année 2022, la plus sanglante depuis 2005, au cours de laquelle le conflit a fait 235 morts à près de 90% des Palestiniens. Mmh. Donc, on est vraiment dans la foulée de 2022. Au niveau régional, le Soudan et Israël se sont mis d'accord début février pour la normalisation de leurs relations et un traité de paix dans le cadre des accords d'Abraham lors de la première visite officielle du ministre israélien des Affaires étrangères au général Bourané, chef de facto du pays depuis le putsch. De son côté, l'Arabie saoudite a réaffirmé récemment qu'elle ne normalisera pas ses relations avec Israël sans l'établissement d'un État palestinien. Le Tchad a récemment inauguré une ambassade en Israël, 4 ans après la reprise des relations diplomatiques entre les deux États. Netanyahou a participé à l'inauguration de l'ambassade à Tel Aviv avec l'éducateur tchadien Mahamat Idriss Déby Itno.
Mon Dieu, hey, ça va bien.
Des belles fréquentations. Oui. Le Soudan, le Tchad.
Oui, il y a quand même des importantes communautés musulmanes dans ces pays-là.
Oui, oui, oui. Et peut-être juives, je ne sais pas. Hein? Au niveau international, l'UE estime qu'il est antisémite de qualifier l'État d'Israël d'apartheid. Cette déclaration extraordinaire a été faite en réponse à une question de plusieurs membres pro-israéliens du Parlement européen adressée à la Commission européenne. Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a souligné, je le cite, « affirmer que l'existence d'un État d'Israël est une entreprise raciste fait partie des exemples illustratifs inclus dans la définition de l'IHRA, la fameuse définition de l'antisémitisme. » À la suite de cette déclaration, M. Borrell a déclaré aux nouveaux dirigeants israéliens qu'il était impatient de travailler avec eux à l'amélioration des relations entre l'Europe et Israël. Sinon, en terminant, l'apparition de l'édition allemande d'une bande dessinée française a été annulée en raison d'un mot polémique concernant Israël, celui...
D'apartheid.
Ce mot se trouve dans la postface d'Élise et les nouveaux partisans sous la plume de la chanteuse d'extrême-gauche Dominique Grange, protagoniste du livre. Elle y dit sa solidarité avec la résistance exemplaire du peuple palestinien depuis 70 ans contre l'occupation et l'apartheid. Publié en 2021 aux éditions Delcourt, l'album raconte de manière romancée le parcours de cette militante maoïste il y a un demi-siècle, dessinée par son mari Jacques Tardy. Les éditions allemandes Carlsen ont confirmé que ce mot d'apartheid était à l'origine du problème. Je les cite. Nous sommes toujours convaincus de la qualité du livre et regrettons que, concernant la postface, nous n'ayons pas fait les vérifications suffisamment attentivement avant d'annoncer la publication.
Ah, franchement.
La porte-parole a rajouté. Nous souhaitons éviter de nous retrouver dans l'inextricable débat BDS. Terminant là-dessus sur la culture et sur la guerre culturelle, suggestion de lecture de notre camarade Francis Dupédéry, article dans Pivot.Québec il y a 2 semaines, qui s'appelle « La liberté académique, la guerre culturelle et l'État d'Israël ». Donc, allez voir ça sur la censure à deux vitesses et sur le deux poids, deux mesures par rapport au milieu, à la fameuse liberté académique.
Oui, c'est ça.
Voilà
merci,
pour
Mathieu,
les ajouts.
Oui, c'était, il y avait du stock, hein? Quand même.
On
oui,
l'a dit en même temps.
Ben oui. Alors, on va écouter quelques notes de musique et puis je vous reviens tout de suite après. Avant de passer en musique, une nouvelle digne d'un roman de Kafka. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a annoncé avoir appris sa dissolution sur les réseaux sociaux. Ah. Apparemment, cette dissolution-là aurait été décidée sur la base d'un jugement rendu il y a 6 mois, à son insu et dans un procès tenu en son absence, évidemment en l'absence de ses avocats. C'est le ministère de l'Intérieur qui avait saisi la justice pour non-conformité de la Ligue au texte en vigueur régissant les associations. Ça, c'est la raison officielle. Mm-hmm. Mais selon la Ligue, ces accusations-là ne reposent sur aucun fondement. C'est plutôt son rôle de défense des droits humains, de la liberté et de la démocratie qui lui est reproché. son travail sur la question des droits humains, justement, en collaboration avec d'autres instances et organisations internationales, et d'ailleurs explicitement mentionné dans le texte du jugement. Bon, cette décision-là est pas tellement surprenante étant donné le contexte algérien de répression qui touche les organisations de la société civile. Par exemple, plusieurs médias ont été fermés et des journalistes algériens arrêtés ces derniers mois. Mais ça reste quand même préoccupant et le secret entourant la décision en dit long sur l'absence d'indépendance de la justice algérienne. La Ligue prévoit évidemment faire appel de ce jugement-là. Alors, on va surveiller ça. On va
On va surveiller nos courriels.
Oui. La Tunisie dans la même démarche actuellement. C'est, ouais, ça va très bien.
Alors, on va écouter une musique de circonstance. C'est la pièce Araga du rappeur franco-algérien Younes, qui est inspirée de l'histoire véridique d'un jeune homme mort en mer avec ses amis en 2011. Araga, en arabe, veut dire littéralement brûleur. Et en Algérie, le terme est utilisé pour parler des gens qui brûlent leurs papiers, qui brûlent les frontières pour se rendre en Europe. La chanson, dont le vidéoclip a été tourné en Algérie, est tirée de son album Identité remarquable, qui est paru en septembre 2022. Alors, on écoute ça.
Hey Younes, ça va mon cousin? Yadra Younes, de la chanson Taharaga. Zal? Cette semaine, ils ont disparu 21 de Haraga d'Arze. Arze est triste.
Haraga. Banlieue de Oran, c'est beau l'Algérie, mais ici c'est pourri. Des barres d'immeubles délabrés, couleur vieux gris délavé. La nuit avec mes amis, on rêve d'ailleurs, on fait la vie. Plutôt bon vivant, j'aime rigoler. Je connais tout le quartier me connaît. Je suis diplômé, mais j'ai pas de boulot. Avec ma famille, on vit dans un studio. J'aimerais leur offrir un avenir meilleur, un rêve qui me tient à cœur. Un soir on s'est mis d'accord avec mes gars, on s'est cotisé pour payer le babord. Ce sera le 3 à la nuit tombée à l'entrée du port. C'est que la vie me donne pas grand chose, j'attends rarement qu'elle me gratifie. Et qu'en m'éloignant de la misère que je peux la trouver magnifique. J'ai les yeux rivés vers le ciel, les étoiles font des graffitis. La dalle m'a poussé au départ, mais la mer a plus d'appétit. C'est que la vie me donne pas grand chose, j'attends rarement qu'elle me gratifie. Et quand m'éloignant de la misère que je peux la trouver magnifique. J'ai les yeux rivés vers le ciel, les étoiles font des graffitis. Totalement poussé au départ, mais la mer a plus d'un petit. Une nuit d'été, avec mes reilles on s'est endetté. Et la famille je veux pas l'inquiéter, donc j'ai rien dit et j'ai tout quitté. Ma mère croit que je dors chez ma sœur. En vérité je vais rejoindre le passeur. J'ai préféré partir en douceur. Partir en douceur. La nuit du départ, la mer est agitée. Tant pis, c'est trop tard, on ne peut plus reculer. Le passeur a peur, on a insisté. Je suis monté à bord, puis j'ai prié. Deux semaines plus tard, toujours pas de nouvelles. Au quartier des rumeurs, on espère un appel. Un jour enfin, le téléphone sonne, et c'est mon prénom qui s'affiche sur le phone. Yemma tremble, elle décroche plein d'espoir, elle a bien fait d'y croire. Mais au bout du fil, c'est la police, on vient de retrouver le corps de son fils.
C'est que la vie me donne pas grand chose, j'attends rarement qu'elle gratifie. Et quand m'éloignant de la misère que je peux la trouver magnifique. J'ai les yeux rivés vers le ciel, les étoiles font des graffitis. La dalle m'a poussé au départ, mais la mer a plus d'appétit.
J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté ma ville, j'ai quitté ma ville. Je suis monté à bord, j'ai pris le navire, j'ai perdu la vie.
Avant de céder le micro à Simon, je me tourne vers la Belgique qui, comme d'autres pays européens, fait face à une forte hausse des demandes d'asile en 2022, soit 40% d'augmentation. Ce sont quelques 36 800 demandes d'asile, surtout d'Afghans, de Syriens, de Palestiniens et de Burundais qui ont été déposés l'an dernier. Et ça, en plus des 63 000 Ukrainiens qui bénéficient d'un statut de protection temporaire, comme en France. Et comme ailleurs, ben, le pays peine à loger tous ses demandeurs d'asile dans ses structures d'accueil qui sont littéralement débordées. En octobre 2022, Infomigrant avait rapporté le cas de nombreuses familles de demandeurs d'asile avec enfants qui n'avaient pas trouvé de place dans le système d'accueil et d'hébergement géré par FEDASILE, qui est l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Il y a une vingtaine de mineurs non accompagnés, officiellement reconnus comme tels, qui s'étaient eux aussi vu refuser l'entrée dans le dispositif d'accueil. Et pourtant, ben ces deux catégories-là, c'est-à-dire familles avec enfants et mineurs non accompagnés, sont considérées comme prioritaires. Et ça, c'est en plus, c'est malgré la création de 4000 places d'hébergement supplémentaires en 2022, ce qui porte là, le nombre la capacité de l'agence fédérale à 33 500 places. Alors, dans ce contexte-là, Nicole Demore, qui est la secrétaire d'État à la migration, elle estime que le pays de 11,5 millions d'habitants connaît une pression disproportionnée par rapport à ses voisins européens. Et elle demande donc à l'Union européenne de mettre en place un dispositif de répartition équitable des demandeurs d'asile. C'est pas la première fois qu'on entend ce type de demande de la part d'un pays membre de l'Union européenne. Puis c'est vrai que la Belgique fait partie des États membres qui reçoivent le plus grand nombre de demandes par rapport à leur population, avec l'Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Grèce, tandis que le nombre de demandes est relativement faible dans les pays scandinaves, par exemple. Alors, Simon, il paraîtrait que l'Irlande fait aussi face à une situation similaire par rapport à l'hébergement.
Ça craque de partout. Donc, une situation un peu semblable à ce que tu viens de décrire en Belgique. Mais l'Irlande, on en parle un peu comme en Belgique, pas beaucoup.
Non.
Donc, c'est rafraîchissant. Bon, les centres d'hébergement temporaire pour migrants sont pleins et on va carrément bloquer l'accès à certains centres aux nouveaux arrivants qui vont probablement se ramasser à la rue dans des campements de fortune pourchassés par la police, donc un classique français. Les gens qui sont déjà hébergés peuvent au moins conserver leur place. Mais l'avenir des exilés plus récents ou qui vont arriver bientôt s'annonce plutôt sombre. Donc, on dirait que c'est la thématique de notre émission, les ressources d'accueil et services aux migrants. J'y reviens aussi plus tard au Québec, là, donc qui craquent de tous bords, tous côtés, avec un certain haussement d'épaule des gouvernements. Donc, en Irlande, on a bloqué l'accès récemment au City West Transit Hub à Dublin, l'une des plus importantes structures de toute l'Irlande, avec jusqu'à 58 000 personnes hébergées.
Aïe, aïe.
C'était la quatrième fermeture de centre en un an. Donc, il y en a eu d'autres qui ont fermé, qui ont réouvert. Celui-là, c'est la deuxième fois qu'on le ferme, qu'on en bloque l'accès. Donc, c'est clairement pas une situation qui est viable à long terme. Le gouvernement prévient qu'actuellement, l'ensemble des structures d'accueil à travers le pays est proche de la saturation, sans toutefois annoncer de mesures de mitigation qui pourraient être, par exemple, l'accélération des transitions vers le logement permanent pour libérer des places en hébergement temporaire ou l'affectation de bâtiments vacants en attendant, et sans non plus annoncer de mesures plus structurantes à moyen long terme. Donc, c'est un peu particulier. Le discours est plutôt nonchalant de la part des politiciens. Ça se résume un peu à... Ben écoutez, c'est comme ça. It's very sad. We're afraid of. Ben ça nous fait de la peine, mais les migrants vont sûrement se ramasser à la rue et on peut rien faire. On justifie cette saturation comme partout ailleurs. Les réfugiés ukrainiens, la réouverture des frontières après 2 ans de fermeture relative. Mais bon, même si l'Ukraine, c'était difficile à prévoir que ce serait une guerre totale qui déplacerait tant de personnes, on aurait pu prévoir que l'immigration allait amplement reprendre une fois les frontières réouvertes après les conditions. De confinement. Donc, baisse inquiétante du système de protection internationale en Irlande et en Belgique, t'en parlais, avec ces désengagements des États qui sont dénoncés par toutes les associations locales et qui ont toutes sortes de conséquences. Retard dans le développement des enfants, normalisation et pérennisation de la vie dans des tentes. Peu importe la saison, problèmes sécuritaires, alimentaires et sanitaires, problèmes de cohabitation avec les locaux qui se plaignent, qui veulent pas voir de campement informel dans leur cour, etc. Donc, situation critique à suivre en Irlande. On va rester dans le grand archipel britannique.
Simon, je me demandais, ces réfugiés-là, ces migrants-là, ils arrivent de où à part d'Ukraine? T'as-tu une idée?
Ben, c'est un peu le même portrait partout. On peut avoir autant des Afghans, des Syriens, des Irakiens, Afrique subsaharienne.
Puis ils arrivent à l'Angleterre, j'imagine, surtout.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Oui, okay. C'est ça, exactement. Ils font pas de traversée direct du continent vers c'est l'Irlande. Donc, comme je disais, on reste dans l'archipel britannique pour quelques autres nouvelles. Donc, depuis le 1er janvier 2023, à peu près 1200 personnes migrantes auraient traversé la Manche à partir de la France. C'est des chiffres comparables à la même période l'année passée. Mmh. Je rappelle qu'on est en Europe, mais il peut faire quand même moins 10, moins 5 et les vagues sont très fortes en cette saison. C'est sûr que ces chiffres-là, c'est rien comparé au mois où la température est plus douce, mais on constate déjà plusieurs interceptions de bateaux, incluant même une où se trouvait un bébé. On connaît la propension des Britanniques à mettre en place toutes sortes de mesures allant du « ah bon » au « what the fuck » pour empêcher les traversées. La dernière trouvaille, c'est d'amender une loi sur la sécurité informatique pour obliger les différentes plateformes, réseaux sociaux, etc., à bloquer les vidéos montrant des migrants traversant la Manche sous un jour positif. Donc, watch out les diminutions de traversées de la Manche une fois que le Parlement aura adopté cet amendement-là. Toujours au Royaume-Uni, une de nos préférées aux apatrides, la ministre de l'Intérieur, Madame Suella Braverman, qui disait rêver d'un avion plein de réfugiés décollant pour le Rwanda. Ben, son rêve est sur la glace actuellement parce que ce qu'on appelle le plan Rwanda, qui est d'envoyer au Rwanda les demandeurs de statut en attendant que leur demande soit traitée. Cet accord bilatéral avait été bloqué par des injonctions provisoires. On en avait parlé, mais là, il s'en va carrément devant les tribunaux. Donc, c'est toute la légalité de l'accord qui va être examinée. Ça peut que ce soit long. La contestation judiciaire venait de 11 migrants et de l'ONG Asylum Aid et la Haute Cour de Londres a accepté d'entendre la cause. Date d'audience à déterminer et tant qu'il n'y a pas de jugement rendu, l'accord est suspendu.
C'est ça.
Donc, Mme Braverman est un peu fâchée. Elle menace de proposer très rapidement un projet de loi pour empêcher les migrants qui arrivent par la Manche de demander l'asile au Royaume-Uni. Ça sent déjà la contestation judiciaire.
Ah oui, si c'est pas légal, adapté, je pense.
C'est pas légal en vertu
en droit international. C'est ça.
Certains de ses collègues proposent aussi de retirer le Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça les met pas à l'abri de leurs propres tribunaux, évidemment. Et on nous a habitués à toutes sortes de bouffonneries au Royaume-Uni, donc pourquoi pas des filets de pêche géants ou des hologrammes des falaises blanches de Douvres projetés au mauvais endroit pour désorienter les embarcations. Bon, pour terminer sur une note un peu plus sérieuse, un incident grave qui s'est produit à Brighton, petite ville balnéaire coquette sur la Manche. Le gouvernement a admis avoir perdu la trace de 200 migrants mineurs non accompagnés, des jeunes Albanais pour la plupart, en fait quasiment que des jeunes Albanais, qui auraient été kidnappés ou recrutés, c'est pas clair, par des groupes criminels dans ou devant l'hôtel où ils étaient hébergés, par des groupes mafieux, donc qui font le trafic et l'exploitation des enfants, mais dont le mode d'opération est pas encore très clair. Donc, ces groupes criminels seraient même à l'origine de la migration de ces ados-là en Albanie. Donc, ils sont vraiment en amont vous comprenez ce que je veux dire.
Ouais, en amont, oui.
Donc, tout un réseau bien structuré. On promet aux enfants une vie meilleure. On facilite leur déplacement de fortune jusqu'en Angleterre. Et une fois sur place, on les sortirait de leurs hébergements temporaires fournis par les autorités. On pense que c'est comme ça que ça se passe, mais on n'a pas une idée très claire de l'ampleur du phénomène parce que dans le cas des 200 enfants récemment disparus, c'est un nombre frappant. Donc, ça fuitait dans les médias. Ça provoquait la colère non seulement des associations, mais de nombreux résidents de Brighton et citoyens britanniques en général. Mais ces enlèvements, ça s'est sûrement produit avant. C'est pas nécessairement très documenté, sans que le gouvernement britannique se vante évidemment d'avoir perdu la trace de mineurs isolés. Donc, ça toucherait presque uniquement les enfants albanais. On servirait d'eux pour la production et le trafic de drogue. Il y a une centaine d'assos qui, à l'initiative des antennes de Brighton, de Care for Calais et Love 146, ils ont signé une lettre ouverte adressée au premier ministre britannique. Elle demande que les mineurs non accompagnés ne soient plus laissés à eux-mêmes dans des hôtels, mais qu'il y ait une vraie prise en charge des structures adaptées ou des familles d'accueil, qu'on ouvre des classes, qu'on fournisse des services de base parce qu'il semble qu'il n'y a rien de tout ça actuellement. On affirme que les très mauvaises conditions dans lesquelles on laisse poireauter les ados pendant des mois, ça pourrait aussi littéralement les pousser dans les bras des trafiquants qui usent de psychologie pour leur promettre une vie meilleure. Donc, pour l'instant, à moins que j'ai pas eu toutes les nouvelles les plus fraîches, donc il y a aucune enquête officielle policière sur cette disparition de 200 enfants. Il y a une enquête sur un cas d'enlèvement de 3 ados survenu il y a quelques temps, mais rien sur les 200.
Donc, non, mais en plus, ça se perd pas de même, là, 200 personnes, je veux dire.
200 adolescents perdus. C'est quand même hallucinant. Le gouvernement...
Oui, puis il parlait de fourgonnettes qui venaient les chercher, quasiment les kidnapper aux yeux des responsables des hébergements. Là. C'est, en tout cas, c'est bizarre.
C'est un peu gros, mais c'est comme ça.
Ça sonne la série Netflix.
Oh là là, j'ai hâte.
Là, on rit, mais c'est pas drôle. On va y aller en musique et puis on revient dans quelques secondes avec Mathieu. Mathieu, tu me parles des drôles de relations, comme tu disais en intro, du Canada à l'international?
Ben des trucs un peu particuliers, des trucs logiques, mais vous allez voir. Je vais commencer avec une petite nouvelle sur le Sri Lanka. Ça, c'est plutôt sérieux. Le Sri Lanka a convoqué l'ambassadeur canadien à la suite de la décision d'Ottawa d'imposer des sanctions à quatre hauts responsables pour des violations présumées, entre guillemets, des droits de la personne dans ce pays. Le gouvernement sri-lankais accuse Ottawa de céder à la politique de la diaspora tamoule en sanctionnant deux anciens présidents et deux officiers militaires. Donc, Ottawa a annoncé qu'il interdisait l'entrée au pays de... Simon, ça va dire quelque chose. De Gotabaya Rajapaksa.
Ah, c'est les frères...
Qui a démissionné en juillet dernier. Et son frère aîné, Mahinda Rajapaksa. Les deux hommes étaient au pouvoir lorsque l'armée sri-lankaise a vaincu dans la grande violence les tigres tamouls en 2009, qui ont mené une guerre civile de 26 ans contre le gouvernement issu de la majorité singhalaise du pays. Ils étaient là à l'époque déjà, c'est les deux frères Rajapaksa. Gotabaya a temporairement fui son pays l'été dernier au milieu d'importantes manifestations contre la hausse du coût de la vie. Son frère Mahinda a démissionné de son poste de premier ministre au printemps dernier. Mais là, ils sont plus ou moins revenus au pays pour l'instant. Ottawa a également imposé des sanctions à deux officiers militaires de haut rang. Le sergent d'état-major Sunil Ratnayake avait été condamné à mort par un tribunal pour son rôle dans le massacre de Tamoul en 2000, avant d'être gracié par le président Gotabaya. L'autre officier sanctionné par Ottawa est le capitaine Chandana Prasad Ityarashishi, accusé d'avoir enlevé des civils qui ont ensuite été tués. En plus de l'interdiction d'entrée, les quatre Sri-Lankais ne peuvent plus faire de transactions financières au Canada. Donc, fini les rocheuses pour ces quatre-là.
Finito.
Le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, Ali Sabri, a indiqué dans un communiqué que les sanctions étaient basées sur des allégations non fondées et des contraintes politiques intérieures et qu'elles pourraient entraver les efforts de réconciliation dans le pays. Il a aussi déclaré que sa décision créait un dangereux précédent et était contraire aux intérêts du Sri Lanka. Rien de moins. Il ajoute que le Canada a un rôle à jouer en tant que pacificateur compte tenu de sa propre population importante d'origine tamoule. Mais les associations tamoules d'ici soutiennent qu'Ottawa a donné l'exemple à d'autres capitales dans le monde. Ces groupes demandent au gouvernement canadien d'amorcer un processus pour faire comparaître de hauts fonctionnaires sri-lankais, dont ces quatre-là, devant la Cour pénale internationale. Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions à de hauts responsables sri-lankais, mais Human Rights Watch affirme que le Canada est le seul pays à avoir visé vraiment directement les frères Rajapaksa.
Ben, j'allais le dire.
Ben oui, voilà. Sinon, la partie plus drôle, c'est... au Cameroun. Le pays d'Afrique centrale a fait appel au gouvernement canadien l'été dernier pour l'inviter à jouer le rôle de médiateur dans le litige opposant le gouvernement camerounais aux rebelles anglophones du sud du pays. Des rencontres secrètes ont eu lieu à Montebello, Mont-Tremblant et à Toronto afin de permettre au parti de négocier. Les séances ont permis d'établir une feuille de route vers un potentiel accord de paix, une série de mesures de confiance. On y a aussi formalisé le rôle que jouerait le Canada comme arbitre tout au long du processus. La Suisse avait déjà tenté de jouer ce rôle d'intermédiaire, mais la démarche n'avait pas porté ses fruits en 2019 à peu près. Le Canada finance avec la Suisse la mission à hauteur d'environ 800 000 francs suisses, 1,2 million de dollars. Et les États-Unis sont aussi dans le coup là, donc pour cette démarche-là.
C'est des groupes séparatistes?
Indépendantistes et puis opposés à la dictature du pays. Je vais en parler brièvement justement à l'instant. Les tensions historiques qui couvaient dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest ont dégénéré en conflit armé en 2017 entre les forces gouvernementales et le mouvement revendiquant l'indépendance de la République fédérale d'Ambazonie. Le conflit a fait plus de 6 000 morts et près de 800 000 déplacés, dont 70 000 ont trouvé refuge au Nigeria. Le conflit remonte à la colonisation. En 1961, les régions anglophones qui auraient dû aller au Nigeria ont été rattachées à la partie francophone pour former le Cameroun. Et le président Paul Biya, 89 ans, porté au pouvoir en 1982, semble impuissant. On dit qu'il passe six mois.
Oui. Sans c'est le cas de le dire.
Je cite un article de Radio-Canada. On dit qu'il passe six mois par an en Suisse à se faire soigner. Si c'est pour, ça qu'on
pour,
peut
pour
dire.
Son
impuissance.
Oui, ses petits problèmes personnels. Pour ne rien arranger, le Cameroun est également aux prises avec les charmants Boko Haram. La présence de l'organisation née au Nigeria voisin complique le conflit car elle donne au gouvernement un prétexte supplémentaire pour une réponse qui soit essentiellement sécuritaire et négociée. Les parties à l'accord sont la République du, à l'accord futur, là, sont la République du Cameroun, le Conseil de gouvernement de l'Ambazonie, les forces de défense de l'Ambazonie, le Mouvement populaire de libération de l'Afrique et les forces de défense du Sud Cameroun. Et donc, la twist, c'est qu'un journal camerounais affilié à l'État affirme que le gouvernement du Cameroun n'a jamais autorisé le Canada à mener des pourparlers de paix destinés à mettre fin à l'escalade du conflit dans le pays. Ça, c'est une semaine après que c'est, quelques jours après que c'est sorti. Le journal a cité un communiqué de presse signé par le ministre des Communications, René Sadi, qui a déclaré que le Cameroun n'a confié à aucun pays étranger ou organisation extérieure un rôle de médiateur ou de facilitateur pour régler la crise. Mélanie Joly, qui ne se laisse pas démonter, n'a pas expliqué la raison.
Jamais.
n'a pas expliqué la raison pour laquelle le gouvernement du Cameroun affirme n'avoir jamais demandé l'aide du Canada, mais elle dit, elle a redit qu'elle voulait toujours négocier un accord coûte que coûte. OK.
ouais, mais là, c'est qui a demandé quoi à qui, finalement?
Écoute, il n'y a pas eu de nouveau. Puis, entre-temps, les séparatistes anglophones, comme vous les appeliez tantôt, du sud du Cameroun, ont lancé un appel aux États-Unis pour qu'ils viennent intervenir dans la situation. Fait que c'est ça, votre...
Le groupe Wagner n'est pas là?
non, il manque juste ça.
en terminant, dans un autre pays, un sujet très sérieux, Marie-Ève aussi. Des députés des cinq partis représentés à la Chambre des communes demandent au gouvernement canadien de secourir d'anciennes députées afghanes toujours piégées à Kaboul. Fin janvier, l'ancienne députée afghane Mursal Nabizada et son garde du corps ont été tués par balle par des inconnus. Ces députés canadiens affirment dans une déclaration conjointe qu'ils ont travaillé de concert depuis octobre pour faire venir au Canada les 9 parlementaires afghanes. Il reste malheureusement 8 pour les faire venir au Canada. Les députés estiment que puisque le Canada a participé aux efforts d'encouragement et de mentorat des femmes parlementaires en Afghanistan, il a maintenant la responsabilité morale d'aider, de les aider. Et sinon, ben, petit mot pour vous dire que finalement, ça bouge du côté des Canadiens qui sont pris dans les camps en Syrie, des camps gérés par les Kurdes. La Cour fédérale a ordonné fin janvier le rapatriement de 23 Canadiens, 6 femmes, 13 enfants, 4 hommes, détenus depuis des années dans les camps. Mais, selon Human Rights Watch, au moins 43 Canadiens, soit 30 enfants, 7 femmes et 6 hommes, seraient détenus dans ces camps. Donc, c'est pas réglé, mais la Cour fédérale a fini par faire bouger le gouvernement inamovible.
Depuis des années.
De Justin Trudeau.
Hey, Mathieu, c'est un beau panorama, ça, de Canada, Canada, le pacificateur.
Yes. comme disait Trudeau, we're back.
Tabarnak.
bon, il disait pas tabarnak.
Non, je sais.
Il disait, continuons.
Alors, ben, nous, on va continuer avec des petites notes de musique avec une pièce musicale.
Une vraie pièce, Marie-Ève.
Une vraie pièce que je vais vous présenter au retour.
Hey, 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 hey.
Alors, on écoutait le duo ukraino-canadien Balaclava Blues et la pièce Swallow, qui est tirée de leur dernier album intitulé Let Me Out, paru en octobre 2022, et qui occupe la quatrième position du palmarès anglophone de choc. Créé par Mark et Marichka Marchik, fondateurs du légendaire ensemble Lemon Bucket Orchestra, Balaclava Blues se situe quelque part entre le chant traditionnel ukrainien et un spectacle techno-multimédia. Le couple s'est rencontré pendant la révolution ukrainienne de 2014 et depuis, ben, ils chantent leurs expériences de la guerre en s'inspirant du blues polyphonique des plaines ukrainiennes et qu'ils mélangent au trap, trance et électro. Ils ont remporté le Stingray Rising Star pour leur showcase au Mondial Montréal 2021. C'était pour la portion musicale, toujours aux Apatrides Anonymes. Et donc, avant de retrouver le troisième comparse des Apatrides, Simon.
C'est moi.
Je vous parle justement du sort de certains réfugiés ukrainiens en Espagne, où la police espagnole et Europol ont démantelé un vaste réseau de trafic de tabac qui exploitait plusieurs d'entre eux dans des usines situées à Séville, Valence et Logrono. Les trafiquants faisaient travailler des Ukrainiens arrivés dans le pays juste après le début de l'invasion russe. Certains étaient venus de manière régulière, d'autres avaient déposé des demandes d'asile. Ces réfugiés-là étaient installés dans des genres de préfabriqués desquels ils étaient interdits de sortie pour pas attirer l'attention. Ils étaient également soumis à des horaires intenses et ils fabriquaient des centaines de milliers de paquets de cigarettes par jour. C'est assez impressionnant. Vous allez voir, en tout, ce sont 27 personnes qui ont été arrêtées et l'équivalent de 37 millions et demi d'euros saisis, ainsi que près de 3,5 millions de paquets de cigarettes qui ont été saisis en même temps. Ce genre de saisies-là sont fréquentes en Espagne. Bon, on le sait, là. Il y a la mafia hein, qui sévit un peu quand même en Espagne et qui utilise des clandestins souvent originaires d'Europe de l'Est, dont l'Ukraine. Par exemple, en décembre dernier, la garde civile avait procédé à un coup de filet similaire et arrêté 16 personnes. Il y avait 4,5 millions de cartouches de cigarettes et 31 tonnes de feuilles de tabac qui avaient été confisquées. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est le nombre de réfugiés ukrainiens qui ont été exploités par ces réseaux-là. Ça, j'ai pas trouvé l'information, mais ça fait un peu peut-être un écho à ce que tu racontais, Simon, pour la disparition des
On en avait 200 qui étaient connus, donc ça doit être par dizaines ou par centaines aussi en Espagne, j'imagine.
Mais c'est-tu des réfugiés ukrainiens qui sont officiellement dans le pays ou qui sont arrivés de façon informelle? Il y a ça aussi.
C'est ce que je disais, il y en a qui sont venus qui ont déposé une demande formelle d'asile, puis il y en a d'autres qui sont venus de façon clandestine.
Par eux-mêmes, là, c'est ça. Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Alors, Simon, je me tourne vers toi cette fois-ci pour les actualités liées à l'immigration au Québec et au Canada.
Oui, ben je parlais de structures d'accueil, de ressources qui craquent de partout, donc je poursuis mes versions Québec-Canada, mais je vais faire un lien avec les Ukrainiens, les réfugiés ukrainiens. Avec mon premier exemple d'infrastructure qui est en train de craquer, c'est l'église Saint-Michel-Archange qui est sur Iberville au coin d'Hochelaga dans le centre-sud de Montréal, qui est vraiment l'épicentre de l'aide aux réfugiés ukrainiens. C'est non seulement un centre de dons, mais un lieu de rencontre pour échanger avec des gens qui parlent la langue. Mais de plus en plus, le personnel sur place évoque la rareté des logements abordables comme préoccupation des gens qui viennent chercher de l'aide. Donc, cette petite église a dû ajouter à son arc une genre de spécialisation en réseautage liée à la recherche de logements. Pour les réfugiés ukrainiens qui viennent pas nécessairement de milieux aussi défavorisés qu'Haïti ou le Salvador, par exemple, ça reste quand même très difficile, à la différence qu'il y a un programme spécial en place, ce qui fait en sorte que les réfugiés ont un statut officiel et reçoivent les aides gouvernementales de base. Et aussi, il y a quand même une communauté déjà bien implantée ici et dans les autres grandes villes canadiennes. Mais parlons-en des aides, les aides gouvernementales. Donc, souvent, les gens arrivent en urgence avec presque rien. Et s'ils ont parfois quelques économies, c'est dépensé en quelques semaines en général parce qu'il faut recommencer à zéro et que le coût de la vie est beaucoup plus cher ici que là-bas. Le ménage type ukrainien, il est presque toujours composé de femmes seules avec enfants puisque la mobilisation oblige les hommes à rester sur le front.
Effectivement.
Oui, donc beaucoup de mères monoparentale. On peut parfois se faire héberger pendant un mois à peu près dans un hôtel payé par la Croix-Rouge, mais ensuite, il faut se loger soi-même et se débrouiller avec ce que verse le provincial, soit l'équivalent des prestations d'aide sociale. Mm. dont le montant varie en fonction des situations familiales et financières. Il y a le fédéral qui a versé des aides ponctuelles, mais rapidement, il faut travailler pour payer les biens de base et les loyers astronomiques actuels. Et même avec des emplois à temps plein, c'est difficile d'y arriver. Et comme je disais, beaucoup de femmes ukrainiennes sont monoparentales avec 2-3 enfants. Mais travailler à temps plein ou de soir, c'est pas nécessairement possible, puisqu'il faut s'occuper des enfants. Et en plus, faire de la francisation, qui si on travaille de jour, ça se passe de soir, donc oui, c'est pas évident. Pour en revenir à l'église Saint-Michel, les pasteurs sonnent l'alarme. Les denrées, les biens, les ressources financières et humaines sont pratiquement à sec. Une situation de quasi-pénurie qui est pas spécifique à la communauté ukrainienne. Tous les groupes communautaires qui viennent en aide aux réfugiés, aux demandeurs de statut dans la région de Montréal sont à bout de souffle, vraiment tous, sans exception. Les centres sont à la fois en manque de ressources et débordés de demandes. Donc, c'est inversement proportionnel. Il y a beaucoup plus de réfugiés que dans les années pandémiques, évidemment. Il y a les points d'entrée irréguliers comme le chemin Roxham qui exercent une pression supplémentaire sur les organismes de la région de Montréal principalement et non sur les autres régions du Québec. Il y a les réfugiés ukrainiens dont je parlais tantôt qui depuis presque un an, c'est bientôt un an je pense, l'anniversaire du début de la guerre, donc qui s'ajoutent ces réfugiés-là aux arrivées habituelles, si on veut, moyennes. Il y a les délais qui s'étirent dans le traitement des demandes, ce qui fait en sorte que plus de monde reste confiné plus longtemps aux services communautaires avant d'avoir accès aux services publics à cause d'une vieille règle provinciale contestée depuis des années. Il y a l'exode du personnel des organismes vers des emplois plus payants parce que travailler dans le communautaire, c'est pas des salaires toujours très intéressants. Et beaucoup de travail en temps supplémentaire non rémunéré. Donc, toute une série de facteurs qui mettent énormément de pression sur les organismes, ce qui, dans certains cas, menace même leur existence. Il y a des banques alimentaires qui limitent de plus en plus les biens qui peuvent être achetés par chaque ménage. Il y a des groupes d'aide qui fonctionnaient sur le mode premier arrivé, premier servi qui fonctionnent maintenant sur rendez-vous seulement, avec parfois aucune disponibilité avant plusieurs mois. Il y a des guichets qui ont été fermés pour centraliser les offres. Donc, vraiment, on essaie de rationaliser pour faire en sorte de pouvoir poursuivre les missions, mais c'est pas facile. Et malgré des demandes répétées des organismes pour avoir un financement public suffisant et récurrent, il n'y a aucun palier de gouvernement qui bouge actuellement, à part quelques aides ponctuelles qu'il faut vraiment arracher aux fonctionnaires. Ce qui est encore plus absurde, c'est de se rappeler que beaucoup de ces demandeurs de statut sont considérés comme des anges gardiens et travaillent pour des services essentiels en sous-traitance ou directement dans des infrastructures publiques. Je vais paraphraser Gary Aubas du groupe Intégration, Citoyenneté et Inclusion basé à Montréal-Nord. J'ouvre les guillemets. « Les migrants sont des gens qui veulent contribuer à la société. La plupart finiront de toute façon par devenir résidents permanents. » Si on ne leur donne pas accès dès leur arrivée à des ressources d'intégration, certains ne trouveront jamais de travail et vivront d'aide sociale indéfiniment. Ils ne pourront pas se loger adéquatement, leurs enfants n'auront pas accès à une scolarité satisfaisante et le cycle va se poursuivre. Donc, ce qu'ils entendent, dans le fond, c'est que c'est un investissement de mieux outiller peut-être les réfugiés qui arrivent ici pour tout le monde.
Oui, puis le fait de ne pas s'en occuper, mais ça peut hypothéquer une génération entière. Non?
Effectivement. Donc, il y a péril en la demeure et le communautaire crie à l'aide. Du côté des classes d'accueil et de francisation, par contre, il semble que le financement actuel soit suffisant, ce qui a même permis au Centre de services scolaires de Montréal d'ouvrir 150 classes de plus que l'année passée pour accueillir 1100 élèves de plus. Par contre, si ça va plutôt bien pour le financement, la pénurie d'enseignants, enseignantes, de personnel de soutien spécialisé pose problème et menace la qualité pas juste de l'enseignement, mais de tous les services périphériques. Par exemple, beaucoup d'enfants et de parents aussi qui ont vécu des épisodes traumatisants, ben ils ont besoin d'une attention particulière et de soutien psychologique avant de pouvoir recevoir l'enseignement prévu parce qu'ils sont pas toujours dans des bonnes dispositions de santé mentale. Donc, toutes sortes de pressions qu'on constate, là, j'ai évoqué le logement, le communautaire et le scolaire, mais c'est ressenti aussi dans en pédiatrie sociale. Chiffre assez parlant, entre mars et novembre 2022, environ 640 femmes migrantes enceintes ont été prises en charge par les services sociaux. Des travailleurs dans ce domaine-là décrivent les femmes enceintes ou mères de très jeunes enfants comme ayant souvent des situations personnelles beaucoup plus lourdes, des parcours migratoires plus longs et difficiles, des situations de santé plus graves que par les années précédentes. Avant, il était, paraît-il, assez fréquent qu'elles arrivent à la frontière avec un peu d'argent, des contacts qui peuvent les héberger, bref, tout un réseau d'entraide sur lequel compter, mais ce serait de moins en moins le cas. Donc, beaucoup plus de femmes arrivent complètement seules et démunies et ont besoin vraiment d'une prise en charge complète. Faut aussi mentionner le 3 500 $ que peut coûter un accouchement. Dans à peu près 20 % des cas, ce n'est ni remboursé par le programme fédéral de santé intérimaire, ni par l'assurance maladie, ce qui éloigne des services de santé des femmes qui ont peur de se faire courir après avec une facture qu'elles ne seront pas capables d'assumer par la suite. Donc, une pression de plus avec laquelle les sages-femmes et les travailleuses sociales doivent composer pour tenter de fournir un accompagnement périnatal qui a de l'allure. Donc, voilà pour l'essoufflement des ressources d'aide. Je pourrais donner plein d'autres exemples, mais on en revient toujours aux arrivées irrégulières. C'est un des principaux facteurs de vulnérabilité et de clandestinité et par ricochet de pression sur les ressources, ce qui nous mène directement à la fameuse entente sur les tiers pays sûrs, dont la renégociation entre Ottawa et Washington semble loin d'être terminée. C'est Sean Fraser lui-même, le ministre fédéral de l'immigration, qui l'affirme.
Mais c'était pas Mendicino qui disait que oh oui, là, ça s'en vient, là, c'est sur le bord d'être signé. Oui,
il avait été contredit par Trudeau, je pense.
Lui-même, ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de négociation actuellement.
Pas en tout, là. Ouais. C'est du bluff.
Mm-hmm. Ouais.
Bon. Oh, on va envoyer nos enquêteurs là-dessus.
Oui, spéciaux.
Il y a une visite de Biden qui est prévue en mars au Canada, donc nous serons invités, évidemment.
Oui.
et le Sean Fraser pense qu'il n'y aura pas d'annonce d'ici là, puisqu'il n'y a toujours pas de compromis qui a été trouvé sur les modifications à apporter à l'entente. Et même quand on va s'entendre là-dessus, avant que ce soit adopté, ça va passer par tout un processus législatif. Des deux côtés de la frontière, probablement. Il y aura sûrement des commissions parlementaires. Peut-être des élus vont réclamer des changements sur les changements. Il va falloir qu'Ottawa et Washington retournent à la table de négociation. Donc, c'est pas fini. Patience. Et forcément, les arrivées de migrants en plein champ en Montérégie, ça va se poursuivre, tout comme les niaiseries de mon oncle sur le chemin Roxham. Ça va continuer à fuser de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, de Yves-François Blanchet, de François Legault, de Bernard Drainville et du dorénavant le pire d'entre tous, Jean-François Lisée, qui est rendu tellement bas intellectuellement, tellement petit. Il fait même la promotion de déportation forcée de migrants du Québec vers l'Ontario en autobus, exactement comme ça se fait par les très trumpistes sénateurs du Texas et de la Floride.
Il s'inspire de Suella Braverman.
Oui, ben t'as tout le courant alt-right à travers le monde, je pense.
Si, Simon, on va mettre un petit marqueur de casserole pour reprendre notre souffle et annoncer ce qui s'en vient, c'est-à-dire l'agenda militant. Alors, tout est dans tout, comme je disais, comme Simon le disait, je veux dire, c'est que on parlait de logement, et bien jeudi le 16 février, le FRAPRU organise une manifestation nationale à Québec pour réclamer la construction de 50 000 logements sociaux en 5 ans. La manif clôt une tournée des différentes régions du Québec en char allégorique. On vous en avait parlé, que ça avait été lancé à Montréal à la mi-novembre. Il y a du transport interrégional gratuit qui est organisé. Il faut juste réserver son siège à l'avance, bien sûr, et avoir son lunch. Vous avez juste à contacter votre comité logement local. C'est donc le 16 février. Et le départ se fait de la manif se fait à l'église Saint-Jean-Baptiste à 13h30 à Québec. Sinon, samedi, le 18 février, va se tenir le lancement de la revue Caminando du Comité pour les droits humains en Amérique latine et celui du livre « Qui a tué Berta Sáceres » de Lina Lacani, publié aux éditions de la Rue d'Orion. Ce sera l'occasion de discuter des luttes et des mobilisations sociales pour la protection des territoires et des vies en Amérique latine et au Honduras face aux enjeux posés par l'industrie extractive. La discussion va se tenir avec Marie-Dominique Langlois, qui est doctorante en sociologie, spécialiste des enjeux de territoire et préfacière du livre dont c'est le lancement. Elle va parler de l'impunité et d'extractivisme. Il y a aussi Félix Molina, qui est journaliste et membre de la communauté hondurienne de Montréal, qui va parler de la protection des défenseurs et des journalistes. Et finalement, il y a Ricardo Penafiel, qui est auteur d'En Caminando et professeur associé au département de sciences politiques de l'UQAM, directeur du GRIPAL également, qui lui va parler de la situation au Chili. Alors, c'est le samedi, je le rappelle, 18 février à 17h. C'est à l'Association des travailleurs grecs du Québec dans le Mylène à Montréal, au 53-59 Avenue du Parc. Ensuite, le mercredi 22 février, Solidarité sans frontières et la Ligue des droits et libertés organisent une conférence conjointe intitulée « Regards croisés sur les droits des personnes migrantes » qui va aborder les enjeux actuels auxquels font face les personnes migrantes au Québec, probablement qu'il va être question de logement, et amener un regard critique sur le contexte global dans lequel ces enjeux-là s'inscrivent. Plusieurs panélistes également, dont François Crépeau, qui est professeur titulaire à l'Université McGill et qui a été rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme des migrants de 2011 à 2017. Il y a Samira Jasmine, qui est militante à Solidarité sans frontières, Jenny James, coordonnatrice du programme de détention d'Action réfugiés Montréal et représentante de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Et enfin, Rémi Paulin Toihiroa, qui est candidat au doctorat en sociologie à London School of Economics and Political Science. C'est donc le mercredi 22 février à 18h30. C'est à l'auditorium de la Grande Bibliothèque. Et c'est gratuit, mais faut s'inscrire. Et je crois que c'est mon dernier événement, oui. Samedi le 25 février, deux documentaires des films multimondes sont présentés dans le cadre d'un symposium international sur le thème diaspora asiatique et récits de migration. C'est organisé par le Laboratoire de publication d'art asiatique en collaboration avec le Festival du film coréen au Canada. Donc, au programme à 16h, La montagne d'or, un documentaire qui suit un Montréalais d'origine chinoise qui tente de retrouver ses racines familiales et l'histoire de la communauté chinoise au Canada. Et un peu plus tard, à 19h, ça va être suivi de Être chinois au Québec, dans lequel on découvre la nouvelle génération de sino-québécois et les défis là, qui les attendent sur le plan de l'identité et de l'intégration. Ces deux films-là sont réalisés par William Ging-Wi Derry et Malcolm Guy. C'est donc samedi le 25 février au Carrefour des arts et des sciences de l'UDM, pavillon Lionel Groulx, sur la rue Jean-Brion.
Merci Marie-Ève pour l'agenda. Plein de beaux événements, Simon. Hein?
Il y en aurait eu d'autres aussi. Il y a par exemple, on le sait, là, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui s'est ouvert en février. C'est comme ça chaque février. Mm-hmm. Donc, il y a toujours une panoplie d'événements, là, tant des expos, projections de films, conférences. C'est assez varié.
Puis le 14 février, la marche des les filles et femmes autochtones disparues à chaque année aussi à Montréal.
Oui, c'est ça. Donc,
Canada.
En tout cas, je pense que j'aurais pu faire un agenda de 10 minutes.
Voilà.
Avec tous ces événements-là. Donc, avant de se quitter, mesdames et messieurs, une dernière nouvelle. Il y a deux semaines, je vous parlais de l'infâme police de Terrebonne.
Non, ça va à Montérégie.
Oh, ça va à Châteauguay. C'est maintenant la police de Châteauguay qui se fait accuser de profilage. Et là,
elle entre au panthéon de la brutalité.
Oui. C'est Monsieur Herbert Moum-Youm, un homme d'origine camerounaise dans la cinquantaine et père de trois enfants, qui fait actuellement face à 8 chefs d'accusation reliés à une interception routière survenue au printemps 2020.
Routière.
Pendant qu'il conduisait le véhicule de...
sa femme.
Eh oui, pareil comme Pierre-Marcel Monsanto dont je vous parlais il y a deux semaines. Il se bat maintenant devant les tribunaux pour tenter de faire tomber les accusations qui pèsent contre lui et obtenir un dédommagement financier également, puisqu'il affirme avoir été victime de profilage racial et de brutalité policière. Je vais vous relater l'incident en question. Mm-hmm. Je vous excuserai les détails, mais c'est tellement rocambolesque que ça vaut la peine. Alors, le 12 avril 2020, Monsieur Ayoum est intercepté par une patrouilleuse du service de police de Châteauguay vers 21h47. Il était sur le chemin du retour de sa journée de travail à Montréal, au sein de l'organisme Racine Croisée.
Mais il me semble que c'est tard pour rouler en voiture, ça.
c'est ça, Monsieur Ayoum, il est directeur du service d'immigration à cet organisme-là. Pendant l'intervention, à un certain moment donné, il est amené sur le siège arrière de la voiture de la policière qui, elle, appelle des renforts et fait remorquer le véhicule. C'est comme ça que 5 policiers en tout se retrouvent impliqués dans cette affaire-là. Monsieur Ayoum est alors amené dans le garage d'un commissariat de police où on l'oblige à rester dans une voiture de police pendant 1 heure, malgré ses demandes répétées d'avoir accès à une salle de bain. On le reconduit ensuite chez lui où les policiers lui demandent de ramasser ses affaires qu'ils ont disposées sur le coffre de la voiture de patrouille. Comme monsieur se sent humilié par cette situation-là, il décide de plutôt se diriger vers l'entrée de sa maison. Il affirme alors, photo et rapport médical à l'appui, avoir été brutalisé par les policiers qui lui auraient causé d'importantes blessures au cou de gauche ainsi qu'à la tête. Il s'est d'ailleurs rendu à l'urgence 2 jours plus tard en raison des blessures qu'il avait subies. Menotté au poignet, l'homme a ensuite amené de nouveau au poste de police de Châteauguay où il a cette fois été incarcéré dans une cellule toute la nuit. Il a finalement pu quitter les lieux le lendemain matin après que sa femme a eu recours au service d'un avocat pendant la nuit. Alors, ça,
sa soirée d'enfer, ouais.
C'est ça. Comme je disais, le motif initial de l'interception routière est que M. Ayoum était au volant d'un véhicule appartenant à une femme, son épouse. La policière qui l'a interpellé affirme dans son rapport d'enquête que l'homme semblait conduire avec les capacités affaiblies par l'alcool, ce que nie M. Ayoum. Il dit aussi qu'à aucun moment pendant l'intervention policière, on a accepté de lui dire pourquoi il était intercepté. Il a d'ailleurs, à ce jour, jamais reçu de contravention routière là à la suite de cet événement-là, bien que son permis de conduire et soit suspendu. Monsieur Ayoum a plaidé non coupable aux 8 chefs d'accusation. Qui comprennent, entre autres, avoir conduit en état d'ébriété, comme je le disais, avoir refusé d'obtempérer à un ordre et avoir entravé le travail d'un policier. Il y a une audience qui est prévue en janvier 2024, fait qu'il est pas, c'est pas fini. Monsieur Ayoum a, quant à lui, déposé une plainte en août 2021 à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui, là, mène une enquête sur cette affaire-là. La plainte vise les 5 policiers impliqués dans l'intervention. Bref, si ça continue comme ça, c'est rendu qu'on va faire une chronique sur les interpellations routières aléatoires à chaque émission.
Ben oui, dans le Grand Montréal, dans les super banlieues.
Ben oui, on pourra peut-être même faire, je sais pas moi, une loterie des villes et arrondissements. Là.
Saint-Eustache.
À suivre, Marie-Ève. C'est un beau sujet de chronique. Ouais.
Ouais. C'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. À vous deux, Mathieu et Simon.
Merci à toi, Marie-Ève.
Merci à nous trois, à
tout
le monde.
Merci pour l'animation.
Ben oui, mais c'est toujours un plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes FM du 107,9 de...
Radio Victoria.
Oui, les dimanches et mercredis. Vous pouvez aussi nous écouter en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez nous écrire à apatridesanonymes@commercialresist.ca et suivre notre page
FV.
Face de boîte. On fait relâche dans 2 semaines, les amis. Alors, on va se retrouver seulement en mars, le 9, plus précisément.
C'est loin.
Ouais, je sais. Mais on va se ramasser avec trop de sujets. On ne saura plus comment choisir. Bref.
On fera une émission de 3 heures.
C'est ça. En tout cas, on va se laisser en musique avec la formation montréalaise Cécile et la pièce Au bout de la pointe. C'est tiré de leur premier LP intitulé Le temps là-bas. C'est sorti en octobre dernier et ça figure à la 30e position du palmarès francophone de Choc. Alors, on vous dit bonne écoute et
à très bientôt. Soirée.